s'occupe de ça. Dans le monde à venir, on n'aura pas à manger. Parce qu'on n'aura plus à passer l'examen du problème moral. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'avoir à gagner son pain. Parce que c'est à travers le problème économique que nous sommes interpellés en tant que conscience morale. Et vous avez attrapé l'idée ? Okay. Donc, c'est intentionnellement que nous sommes créés avec manque, de telle sorte d'avoir à manger pour être, de telle sorte que le problème économique se pose, pour que le problème moral nous soit posé. Il en résulte que nous sommes condamnés à ces fautes du circuit économique. Et quand je dis économique, c'est au niveau de toutes les jouissances, pas simplement le pain. Le rêve aussi, ça a les mêmes lettres. Okay. Le rêve, halom. Et c'est pas seulement ça. Pour le pain, il faut du sel. Mais là, il y a beaucoup de niveaux. Et alors, pour revenons à notre problème, c'est-à-dire que comment je vais déculpabiliser ma conscience, et si elle n'est pas déculpabilisée de façon permanente, elle s'intoxique de la culpabilité et elle ne peut plus être reliée à la Torah comme religion de la loi morale, vous suivez, par la fonction du Corban, de la Avoda du Corban. C'est-à-dire, une fois le matin et une fois le soir, pour tout Israël, un sacrifice de déculpabilisation des fautes non volontaires était fait dans le Beit HaMikdash. Par là, le peuple tout entier atteste que, s'il n'avait pas de problème économique à résoudre, il n'y aurait pas d'immoralité. La preuve, c'est qu'on est capable, en dehors du circuit économique, d'avoir un repas sans faute. Et c'est clair ? Oui, oui. Ça veut dire que nous sommes encore... C'est pourquoi je vous ai montré ces duos. Okay. Déjà, lorsqu'on vit en société juive, et la seule société juive économiquement, c'est Israël... Eh bien, cette clause que s'il n'y a pas le temple, c'est l'exil qui assure c'est l'absus normal. Hein, parce que l'exil et l'église, c'est la même chose. Qui assure cette fonction de déculpabilisation est atténuée. Hein, est atténuée. Je ne sais pas comment vous dire. Un juif du scrupule de la moralité. Hein, dans la vie de l'exil ne peut pas être déculpabilisé totalement, c'est l'exil qui s'en charge, alors que vivant en société hébraïque, cela est déjà atténué. Lorsque le temple est là, c'est fini. Okay? C'est un tout autre niveau de conscience d'être au-delà de ce problème, parce que de façon permanente il y a une déculpabilisation par le culte. Maintenant, nous avons des rites de substitut. Pas la prière, mais par exemple le jeûne, la tzedaka. Il y a des rites de substitut du sacrifice. Mais le substitut dans l'histoire du rite du temple, c'est l'exil. Vous avez compris ? C'est-à-dire, je voulais approfondir un peu avec vous cette relation entre ce qui se passe à Pourim avec l'exil et ce qui se passe au Beit HaMikdash dans la fonction de Kapara. Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Alors, mais le jour est terminé. Réfléchissez bien. Ah, ce principe, je sais que ce n'est pas du tout évident immédiatement pour la mentalité occidentale, mais c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai retrouvé cela, mais dans un tout autre sens, dans l'analyse marxiste du problème économique. Okay. Il n'y a pas du tout d'attitude morale au niveau de l'analyse marxiste, mais il y a un lien entre ces deux problèmes. C'est-à-dire que dans la vie terrestre, l'homme se définit par une capacité économique. C'est ça sa conscience. Okay. Et donc, s'il n'y a pas une possibilité de déculpabilisation, ne fût-ce qu'en intention, okay, alors la conscience morale ne peut pas fonctionner. Et c'est pourquoi toutes les sociétés qui ont refusé la Torah comme loi morale, comme religion de la loi morale, sont tombées dans le dualisme. Okay. C'est clair. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais c'est très simple. C'est très simple. Le fait d'avoir à obtenir ma nourriture me mène à l'agressivité, à la violence. Même si c'est à la limite camouflé sous l'aspect du problème économique de société policée civilisée. Une minute. Le fait qu'il faille manger pour vivre, ça veut dire qu'il faut tuer pour vivre. Lorsque je gagne, allez, oui, la preuve. Hein?
Non.
Le sacrifice n'est là que secondement par rapport au fait de nourriture en général. Ça commence dans le fait d'avoir à manger pour vivre. Si nous n'avions pas à manger pour vivre, la clause du sacrifice n'existerait même pas. Elle est intérieure. C'est un peu la même réponse que j'ai dit à Béni tout à l'heure. Je ne sais pas comment dire. Exploiter quelqu'un d'autre, c'est finalement dans le sens de le tuer. C'est pas seulement dans le fait de... Quand vous mangez, même végétarien, c'est une vie que vous mangez. Et pas seulement un animal, okay? Même une plante vit. À la limite même, se nourrir d'un parfum, c'est déjà se nourrir de l'existence de quelqu'un d'autre que moi. Okay? C'est-à-dire, nous sommes donnés à une autophagie colossale. Le monde est en état d'autophagie. Okay? Vous n'avez jamais remarqué ça? Regardez, pourquoi on a de la fièvre quand on jeûne? Parce qu'on se mange soi-même. Et que ce phénomène de combustion interne entraîne une élévation de la température. La vie est perpétuellement un acte d'autophagie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne veux pas ces fautes-là, mais j'y suis condamné parce qu'il faut que je trouve le pain de mes enfants. Pour vous donner une phrase littéraire que vous avez dans tous chez tous les moralistes. Okay? Ça veut dire, on a oublié cela, il y a un tabou, mais une condition tragique de l'homme donnée au problème économique. Être obligé à toutes ces compromissions avec le mal qui se fait dans l'exploitation économique. Quand quelqu'un a des bénéfices, par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, il l'a exploité. Vous allez dire, c'est le prix de son travail. Oui, non, le prix de son travail devrait être équivalent, mais il y a un bénéfice. Donc ça, il y a une faute avec le bénéfice. Il faut la déculpabiliser. On est devenu tellement immoraux qu'on ne perçoit plus ce fait-là. Vous comprenez? Est-ce que c'est fait? Alors réfléchissez ça, que ça ne vaut pas seulement au niveau de la nourriture, mais de toutes les jouissances qui sont nécessaires pour que la conscience soit présente à elle-même. C'est pris à quelqu'un d'autre. Mais qui? Nous avons des législations pour cela. Mais qui va donner le taux du bénéfice? Au nom de quoi? Je vais décider que le taux du bénéfice au-delà duquel il y a exploitation, c'est ça et pas plus et pas moins. Vous comprenez? Dès qu'une société fonctionne, l'injustice commence. Il y a des riches et des pauvres. On peut expliquer de toutes les manières. Celui-là a travaillé plus, celui-là a travaillé moins, celui-là est paresseux, celui-là n'est pas paresseux. Il n'en reste pas moins qu'il y a une distribution du sort au niveau économique qui est d'une injustice absolue et l'un profite de l'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des bénéfices légitimes. Où est le critère?
De quelle justice parlez-vous? Vous parlez, c'est pas de la justice, vous parlez de la justice des hommes, c'est-à-dire qu'il y a des riches et des pauvres. Mais parlons de la justice, elle n'est pas plus égalitaire.
Et donc,
des hommes, au contraire, elle est beaucoup moins. Alors, pourquoi vous...
Je sais pas quoi tu penses, donne-moi un exemple.
Un exemple? Les hommes ne naissent pas égaux. Vous parlez de génie.
Ah, bon, il y a des raisons pour ça. Non, il y a des raisons pour ça, on en a parlé d'ailleurs dans les cours précédents.
Alors, s'il y a des raisons pour ça.
Oui, mais même.
Pourquoi il n'y en aurait pas?
Je vais donner un exemple. Non. Mais il n'en reste pas moins, et même ce à quoi tu fais allusion, il y a des sacrifices pour expier cela. Par exemple, le sacrifice de Rochefort, que vous étudierez un jour, c'est pour le mal qu'il y a sur Terre et qu'aucun homme n'est responsable. Tout cela, ça fait partie du sujet. Il n'en reste pas moins qu'il y a une culpabilisation de la conscience droite à travers le problème économique. Et c'est, si vous voulez, le fonctionnement naturel qui entraîne cela. Et c'est pourquoi, faites bien attention, le sacrifice n'explique que les fautes non volontaires. Les fautes volontaires, c'est une autre chose. Mais les fautes non volontaires, celles que je n'ai pas voulu expressément, mais qui sont entraînées par le fait que je suis inséré dans le circuit économique. Et donc, nous avons besoin de toute une stratégie de compensation, expiatoire. On étudiera, si vous voulez, un échantillon peut-être ce soir, tu me rappelles que de ce problème, qui sera une illustration de cela. Il y a un état de fait qui fait que parce que nous sommes en compétition économique, nous sommes en compromission avec... il y a une réaction de tabou de la conscience qui ne veut pas le savoir. Hein? Mais non, réfléchissez bien, il ne reste pas moins que ça fait partie un peu d'un exemple que je vous ai donné une fois. À un certain moment des crises de l'adolescence, il y a ce qu'on appelle l'anorexie. La conscience morale refuse de manger. Parce que, plus ou moins inconsciemment, elle pressent qu'elle n'a pas le droit, qu'il y a une faute quelque part. Okay? Alors, lorsque ça s'aggrave, ça devient une maladie, mais vous voyez que l'expérience, là, est indéniable. Okay? L'inégalité économique est entraînée par le jeu de la compétition, et inévitablement, cette inégalité est causée par des fautes. Je ne sais pas comment vous dire... un commerçant a de la chance, il a trouvé une patente, je ne sais pas comment on dit. Okay? Et puis voilà, ça va lui permettre, par un coup de téléphone, de gagner un franc de plus sur chaque kilo de je ne sais pas quoi. Okay? Oui, mais voilà que le commerçant d'à côté n'a pas cette chance-là. Alors finalement, il y a une inégalité là qui fait qu'il y a participation à une faute à un niveau quelconque. Et c'est vrai dans toutes les conduites du problème économique. Alors finalement, la réponse est de dire, je ne suis pas coupable de ce mal indéniable. Et donc, il faut déculpabiliser. Bon, j'étais peut-être un peu schématique dans le principe, mais réfléchissez, on prendra ça d'autres fois. C'est la participation à un repas pour lequel aucune faute n'a été faite. Et comment cela apparaît? C'est le fait que les kodashim, c'est-à-dire les nourritures destinées au temple, sont prélevées avant la commercialisation de la récolte. Et le principe est valable à tous les niveaux. Kodesh Hashem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Kodesh dans ce problème? C'est pas entrer dans les fautes du problème économique. Mais alors ça, je voudrais être très clair. Okay. Bien que notre conscience se défend de cela, il est évident que la volonté de puissance, la volonté de jouissance de la vie, fait que il y a des tendances de l'égoïsme qui est que, peu importe si on écrase les autres, l'essentiel c'est de réussir soi-même. Mais déjà, à la racine, c'est une culpabilité innocente, parce que nous sommes condamnés à cela en tant que nous sommes créés comme système digestif. Alors il fallait donc comprendre pourquoi nous sommes créés comme système digestif. Et bien, c'est le deuxième principe, sur lequel nous réfléchirons aussi suffisamment, c'est que il n'est pas normal que la personne humaine soit créée comme devant manger pour vivre. Bon. Vous voyez, tout ce problème de la faim, c'est un problème énorme, c'est un mystère philosophique. Un homme est faim, un enfant est faim. Et d'où cela vient? Ça vient que nous sommes créés ainsi parce que nous avons à résoudre le problème moral. Et que nous n'aurions pas de situation de moralité s'il n'y avait l'altérité au niveau du problème économique. C'est pourquoi la définition de l'honnêteté qu'on trouve dans les textes de la Bible, c'est d'être honnête dans les transactions. Parce qu'il n'y a pas de transaction honnête. Dans toute transaction, il y a risque de malhonnêteté. Alors finalement, une législation va intervenir. Mais malgré la législation, il y a des victimes du circuit économique. Voilà, grosso modo, c'est le problème. Okay.
Mais jusqu'alors, il n'y a pas d'expiation de défaut du circuit économique.
Est-ce qu'il n'y a pas eu des sacrifices jusqu'à Noir? Et que même si on ne mangeait pas de la viande, il y avait des sacrifices. Et puis il y a d'autres niveaux. Tu veux dire, on ne mangeait pas de viande jusqu'à Noir. Oui. Il y a d'autres niveaux servis au même.
Et Adam, le problème de Adam et l'interdiction de manger.
De manger du sang.
Par exemple, la nourriture de Adam, qui était seulement végétale, c'est ça? Est-ce qu'il y avait une nécessité d'expiation?
Mais bien sûr, mais il peut y avoir des sacrifices, des sacrifices de végétaux. Dans tout sacrifice, il y a aussi le sacrifice de la farine, hein, par exemple, de l'huile. Okay. C'est à tous les niveaux que cela joue. Bon, alors on reprendra cela, mais ce que je voulais surtout indiquer, c'est le lien qu'il y a, et toutes ces choses-là ne sont pas faciles à découvrir, mais il faut les découvrir. Okay. Et ce sont des notions familières, habituelles, traditionnelles, mais qui se sont perdues dans le temps. C'est que c'est l'exil qui remplace la fonction du temple. J'ajoute simplement une analyse que je crois vous avoir donnée malgré tout. Ah oui, à propos de la peine de mort, nous en avons parlé. Okay. Quand il y a peu de fautes dans la société, il y a un sens d'y avoir un temple qui joue cette soupape d'expiation. Mais s'il y a beaucoup de fautes, le temple ne sert plus à rien, il est détruit. Est-ce que c'est clair le cerveau ? Vous voyez, par exemple, on trouve dans Jérémie beaucoup d'enseignements de ce genre. Ne dites pas, c'est pas grave, il y a le temple et il va expier. Okay. Parce que le temple peut être détruit. Et il est détruit quand ? Quand il y a une saturation d'immoralité, alors le temple est détruit, il est remplacé par l'exil. Vous voyez, la dispersion n'a jamais été ressentie comme un malheur qu'au moment de la destruction du temple. Vous vous rappelez de ça, okay. C'est vraiment au moment de la destruction du temple que l'exil devient l'exil, dans sa fonction dramatique. Alors, dans la reconstruction de la société d'Israël, il y a des étapes, mais déjà dès le début, ceci se retrouve. La conscience morale va devenir confrontée à ses propres fautes, mais de moins en moins à ce mal inévitable que l'on n'a pas voulu, mais auquel on est condamné à participer. Voilà, c'est l'idée qu'il faut retenir. Ok, bon. Une dernière question parce que c'est l'heure.
Comment l'exil peut remplacer ça?
Ah, j'ai pas dit qu'on a compris. Non, j'ai pas dit qu'on a encore compris, mais retenez le postulat. Okay. C'est ce qu'il faut, dans tous les cas, c'est prendre conscience qu'est-ce que c'est qu'une situation d'exil. Okay. Vous voyez le problème par lequel on a commencé aujourd'hui de nouveau à Astrid. Okay. Dans l'exil, il y a quelque chose de caché. Mais si le fait qu'il y a quelque chose de caché nous est caché, on ne sait plus que c'est l'exil. Tu vois ce que je veux dire ? Bien. Bon, on va se... Okay.
On a vu qu'il y avait, par rapport à la faute du veau, d'or, de guerre, qu'il y avait avant, enfin, le fonctionnement du temple prévu,
d'accord.
Et après. D'accord. Ça fait partie de ce qui était prévu avant. Donc,
la fonte.
Avant, même la faute du veau d'or, c'est que expiatoire pour...
D'accord. C'est une question que je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Okay. Mais je l'ai en tête. Que dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, ce qui est pas de la faute du veau d'or en entrée dans le temps messianique. Okay. Et donc, le culte avait une toute autre fonction. Mais c'est la question que vous avez posée. Bien, c'est d'elle. Alors, qu'est-ce que tu vas me rappeler ? Ça me rappelle ma jeunesse. Les élèves du Rav Unter, c'est Rabbi Yitzhak Unter, et qui, à chaque occasion où il enseignait, ses élèves ensuite rédigeaient son enseignement. Il est encore vivant, d'ailleurs, il enseigne à Jérusalem. Et ça, c'est des enseignements qu'il avait enseignés quand il était encore Kouslaaret. Si je me souviens bien, d'ailleurs, il faisait cet enseignement en yiddish. Et sa fille, qui est israélienne, l'a traduit du yiddish en hébreu, mais en gardant le style yiddish. Donc l'hébreu que nous avons suivi est un peu difficile parce que c'est de l'hébreu traduit du yiddish. Okay. Et c'est un des plus grands spécialistes des commentaires du Maharal dans le monde juif contemporain. Le Rav Yitzhak Utner. Okay. Alors en particulier, ce livre est consacré au livre du Maharal sur Hanouka et Purim. Et donc vous avez là, nous avons étudié cette page, Enyan Yudalef, c'est-à-dire le 11e sujet qu'il avait enseigné, précisément à propos du cours qu'on a eu ce matin sur Purim et Kippourim. Ça vous fera une illustration d'un chidouche à ce sujet. Vous suivez ? Vous voyez où ça se situe ? Okay. Bon. Alors je lis, vous suivez avec moi sur le texte hébreu. Bon, celui-là est beaucoup plus clair, donc il y a moins de problèmes pour la lecture. Alors vous suivez avec moi. Purim, Yom Kippourim. Vous voyez le jeu de mots qu'il y a là, Purim est un jour comme Purim. C'est-à-dire que le jour de Kippour est un jour comme Pourim. Bon. Vous rappelez le thème général. D'une part, on nous enseigne que toutes les fêtes sont destinées à disparaître un jour, sauf Pourim. J'ai étudié ça ce matin avec vous. Enfin, hier matin, je veux dire. Quoi. Et que, d'autre part, nous avons qu'aussi toutes les fêtes disparaîtront, sauf Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? On étudie le problème du choral. Vous vous rappelez ? Bon. En tout cas, pour le principe lui-même, c'est-à-dire les différentes fêtes que nous commémorons dans le calendrier de l'année, se réfèrent aux événements de la constitution de l'identité d'Israël. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, Sukkot, etc. Et donc, ils ont le privilège d'être la commémoration des événements qui sont au commencement de notre histoire, mais pendant tout le cycle du temps de la constitution de notre histoire. C'est clair jusque-là. Tandis que Pourim dévoile le fait que l'identité d'Israël, une fois constituée, est éternelle. Et par conséquent, il y a une différence de niveau radical entre Pourim, qui dévoile l'éternité d'Israël, et rappelez-vous la première nuit d'étude qu'on a eue là-dessus, avec Netzach Israël de Moshe, vous vous rappelez ? Et d'autre part, même Pessah, même Shavuot, même Sukkot, qui, jusqu'à la fin des temps, sont Biprinat Atrala, commencement de notre histoire, et à la fin des temps, où il se dévoilera de façon ultime, définitive, l'éternité d'Israël, c'est donc Pourim qui est la fête de la fin des temps. Vous voyez le problème. Alors, cette analyse pour Pourim, nous avons donc une analyse parallèle pour Kippourim, puisque le jour de Kippour, c'est le jour où l'homme devient kadosh. Et par conséquent, de la même manière, toutes les péripéties de l'accès à la Kedusha seront betelim, vous comprenez ce que ça veut dire, betelim, ken, par rapport à la Kedusha elle-même. Bon, alors, sur cet écran très général de ce problème, nous allons voir l'enseignement qu'il y a ici, et vous allez être aidé par la Gemara qu'on a vue déjà dans Shabbat. Alors, nous lisons. Pourim, Yom Kippourim. Ben Bepourim, Ben Beyom Kippourim, tant à Pourim qu'à Kippour, soit l'un, soit l'autre, tant l'un que l'autre. Medabrim, Alodot Kabbalah. On parle d'une Kabbalah. Non, il ne s'agit pas de la Kabbalah, la Kabbalah, mais on parle d'avoir reçu quelque chose. Kabbalah. Beyom Kippour, Amdubaru al Kabbalah Lehava. Le jour de Kippour, on parle. Qu'est-ce qui se passe ? D'une conduite de Kabbalah pour l'avenir. Ça fait partie des règles de la Teshuvah. C'est-à-dire la Teshuvah à différents moments. D'abord le regret de la faute et ensuite la décision de ne pas la recommencer pour l'avenir. Ça s'appelle Kabbalah Lehava. C'est-à-dire je prends sur moi, je reçois la Teshuvah pour l'avenir. C'est clair ? Bon. Ou Bepourim. Et à Pourim, à Moudoubar, on parle ou al odot ki mou ve kiblou. Qu'à Pourim, on a réalisé ce qu'on avait reçu au Sinaï. Vous vous rappelez ? Ki mou ve kiblou. Bon. Alors je continue. Et là, mais la différence, chez Beyom Kippour, que le jour de Kippour, mais d'Abrim al Kabbalah betziruchim harata, on parle d'une Kabbalah reliée à la harata, et la harata, c'est le. Regret, très bien. Veilou Bepourim, alors que pour Pourim, Amdoubar, où on parle Rak alodot Kabbalah, d'une Kabbalah, Venchum Zecher Leinyan Harata. Et il n'y a aucun lien, aucune allusion à un regret quelconque. Bon, vous voyez comment le Rav ici pose les données du problème. Il y a quelque chose de commun entre Pourim et Kippourim, entre autres choses, c'est Kabbalah, qu'on a pris, on a accepté quelque chose. Mais, première différence, à Kippour, on accepte pour l'avenir. Une décision pour l'avenir. Alors que, à Pourim, on confirme la décision qu'on avait prise au passé. Vous voyez ? Deuxième différence, à Kippour, la décision est reliée, sort d'une expérience de regret de ce qui s'était passé, alors qu'à Pourim, on ne nous parle pas de regret. Bon, on continue ? Ça va ? Oro shel davar ze. La lumière de cet enseignement, Ganouzou, est cachée, Be'ouvda, dans ce fait, qui Pourim, que le jour de Pourim, ou Yom Bitul, c'est le jour où a été annulé Amodara Rabba Leoraita. Qu'est-ce que c'est la Amodara Rabba Leoraita? Référez-vous à la Gemara de Shabbat, qui se rappelle Mikan Modara Rabba Leoraita. Ah oui, vous avez oublié. Allez, reprenez-moi votre Gemara de Shabbat. Allez, un volontaire. Non, reprenez depuis le début. Où on a commencé?
Darash.
Qui veut lire? Vous avez un texte avec des voyelles? Ken? Alors, quelqu'un qui a un texte avec des voyelles? Qui veut lire? Darash? Nous? Donnez-moi un texte, je vous dis où ça va commencer. Un peu plus loin. Un peu plus loin, non. Vous avez, prenez un, deux, trois, quatre, à la quatrième ligne après le commencement que je vous avais mis, Kemai Kerabanan. Kemai Kerabanan. Vous y êtes à la quatrième ligne de la Soudia. Ça y est? Bon. Allez, qui veut lire? Bon, je désigne un volontaire. Qui? Toi? Yala. Alors, Kemai Kerabanan. Selon qui est cet enseignement? Kemai Kerabanan, selon l'enseignement des rabbins qui ont dit. Vaïtiatsevu betartit ahar. Et ils se sont rassemblés
sous la montagne.
Continue.
Alors, Rabbi Avrimi.
Abdimi.
Barkama.
Oui. Mais la mère, cela nous apprend. Qu'est-ce qu'il dit? Traduit. Le fait qu'il dit Betarti, qui peut être traduit par sous la montagne, ça nous apprend que Dieu a renversé la montagne sur eux comme un couvercle. Ken? Et elle a dit. Traduit.
Si vous recevez la Torah,
c'est bien.
Veimla.
Et sinon,
Sham Te'e.
Kouratrem. Là sera votre temps. Continue. Vous vous rappelez de tout ça? Bon.
Amar Rab Acha Bar Yaakov.
Voilà.
Mikan Muda Rabba Leoraita.
Leoraita. C'est ça qui parle. De là. Moda'a Rabba Leoraita, une grande contestation contre la Torah. Vous vous rappelez de cela? On étudie ça, une nuit d'études ou un Shabbat?
Shabbat.
Une nuit. Bon, alors vous voyez ce que je vous dis d'habitude, Ken? Par cœur. Sinon, je vais finir par croire vous manquez de cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mikan Moda'a Rabba Leoraita, qui peut faire le raisonnement? Puisque Dieu a imposé la Torah, on peut toujours contester. Oui, on peut toujours contester. Je ne l'ai pas accepté de mon propre gré, puisque ça m'a été imposé. Vous suivez? C'est clair. C'est ça que ça veut dire. Retenez bien. Mikan, Moda'a, Rabba, Leoraita. Continue.
Amar Rabba, Afelkichem,
Hadour,
Kabua.
Malgré cela, en dépit de cela, de nouveau, ils l'ont. Hadour, c'est de l'araméen pour dire Hazrou al-Aïnyan. Hadour, Hadar, c'est Hazar. Ils l'ont de nouveau reçu, accepté, au temps d'Assuérus, dirtiv, Vekiblou, Hayoudi. Les Juifs ont Kimou réalisé, Vekiblou et accepté. Ken, vous rappelez de cela? Bon, quel est le raisonnement? Puisque le verset porte « ils ont réalisé avant, ils ont accepté », ça veut dire « ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté déjà ». Quand? Au Sinaï. Vous voyez le raisonnement? Premier enseignement, au Sinaï, c'était contraint et forcé. Mais voilà qui se dévoile qu'au moment de Pourim, ils l'avaient vraiment accepté. Comment? En l'acceptant à partir de Pourim. Alors je vous rappelle très brièvement, pour vous suivre le raisonnement, Depuis le Sinaï jusqu'à Pourim, c'est tout le temps de la révélation. Okay? C'est à Pourim que s'arrête la Nevoa. Vous vous rappelez de cela? Tant qu'il y a la révélation, il y a contrainte. Si Dieu révèle la Torah, est-ce que je peux dire non? Ça veut dire que c'est comme si je l'accepte malgré moi. Okay? Bon. On a appris avec le Maharal, avec d'autres enseignements, vous vous rappelez que ce n'est pas n'importe qui l'a imposé, la Torah. C'était à ceux qui étaient prêts à l'accepter. Sinon, qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Sinaï? Okay? Leur mérite, c'était d'aller au Sinaï. Mais au Sinaï, ça leur est imposé. Vous vous rappelez, fiançailles, mariage. Okay? On ne marie que des fiancés. Mais on les marie. Parce que ça veut dire que le mariage, si vous voulez, c'est le Romain. L'imposition, okay, de ce qu'on était prêt à accepter. Mais à partir de ce moment-là, ça dépend plus de toi. Vous voyez, vous rappelez pourquoi? Parce que, bien entendu, la préparation à l'acceptation dépend de l'homme, mais pas l'alliance. L'alliance, c'est Dieu qui l'impose. Parce que si c'est l'homme qui contracte l'alliance, c'est aléatoire, arbitraire. Aujourd'hui, je veux, demain, je ne veux pas. Vous avez compris le problème. Et puis, il y avait d'autres enseignements du Maharal en particulier. Dieu nous a imposé la Torah pour nous interdire de nous divorcer. Vous vous rappelez de cela? Bon. Pour s'interdire, pardon. Et d'ailleurs, dans la typologie des fêtes, Pessah, c'est le temps des fiançailles, et d'Odim. Shavuot, c'est le mariage, il y a la choupa. Okay? Et Sukkot, c'est les 7 jours de la choupa sous la soukha. C'est joli en plus. Okay? Et alors, oui, au fond, nous avons là un modèle. On se fiance à Pessah, on se marie à Shavuot, et on rentre à Marianot à Sukkot. Bon. Alors maintenant, pour revenir au problème, qu'est-ce que nous dit ici le Rav? On va le reprendre. Oro shel davarze, prenez au deuxième paragraphe, Oro shel davarze, la lumière de cet enseignement, ganouz vous, est caché, suivez sur le texte, est caché, be'ouvda, dans le fait que Purim, le jour de Purim, huyom bitul amoda'a rabba le'oraita, c'est le jour où a été annulée cette contestation contre la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on a accepté bien que la contrainte avait disparu. Vous avez compris le problème? Je vais donner un exemple un peu contemporain dans le processus de la Aliyah, par exemple. Et vous pouvez prendre d'ailleurs d'autres exemples. Très souvent, la Aliyah se fait contraint et forcé. Okay? Pourquoi? Il y a eu antisémitisme, il y a eu tout ce que vous voudrez. Okay? Et puis voilà qu'il arrive quand même un moment où c'est pourim. Et ça veut dire que, bien qu'à l'origine, il y avait eu contrainte, mais on n'a pas contraint n'importe qui, tiens. Alors à ce moment-là, à un certain moment, eh bien que la contrainte cesse, on pourrait s'en aller, on reste. C'est là que c'est confirmé. D'après la sortoune, ça prend 3 ans. C'est pourquoi vous avez 3 ans de Toshav Arai avant de confirmer votre alia. Vous avez compris le problème? Non, mais c'est vrai, mais vous verrez que c'est... Il y a d'ailleurs un signe. C'est qu'un Olé Khadash, hein, eh bien, d'abord, il est contre tout, n'importe quoi. Okay? Au bout de 3 ans, il est contre la sortnout. Et ça, c'est le signe que c'est vraiment un Olé Khadash. Vous comprenez le problème? Allez, on revient. C'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez un peu l'idée. Non, il y a une variante un peu méchante. Au bout de 3 ans, il n'aime pas les Olim Khadashi. Alors ça, c'est le signe qu'il a intégré. Bien, allez, revenons au problème. Vous voyez pourquoi? Le jour de Purim, c'est le jour du Bitoul, de la Moda'a Rabba Leoraita. Il va nous donner une explication très fine de ce problème. Mashmaouta, qu'est-ce que c'est que la signification chez le Moda'a de cette contestation? Et c'est chez Adam Amoser Moda'a, celui qui déclare une contestation, Tohen prétend qu'il a maassé chez Ouassa, que l'acte qu'il avait fait, l'ona assa à l'aider à Anishelo, n'avait pas été fait par son moi profond. Qu'il y avait, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il n'y avait pas adhésion profonde. C'est un maassé, mais pas l'eau maché à ni à city. Vous comprenez? Donc, chez l'eau à Atsmi, personnel. Et là, mitor gormim chitsonim, qu'il avait fait ça par des facteurs extérieurs. Il avait été manipulé, si vous voulez. Chez Ichrihuoto, l'écart. c'est de la manipulation qui l'avait obligé. Et puis, il peut y avoir des facteurs extérieurs, des facteurs extérieurs de contraintes subtiles, non perceptibles. Bon. Par exemple, l'amour d'Eretz Israël. Non, il ne faut pas rire, bien que ce soit pour rime. Il y a des juifs qui viennent en Eretz Israël parce qu'ils aiment ça, il ne faut pas croire. Bon, mais dans tous les cas, vous voyez, c'est par exemple, pour l'étude de tout à l'heure, un intérêt noble. Et comme on dit, noblesse oblige. Alors il était obligé. Bien, alors je continue. Mais contrairement à cela, c'est-à-dire la moda'a, c'est de dire Lohaani Sheli Atsmi Asaedze. Ani Asiti Abalohaani Aamok Atsmi. Vous comprenez la différence, ok? Ou l'omadze, de façon contraire, bitul modara, l'annulation de cette contestation, pirusho, ou l'épour, nafor, ça c'est pourim, tout à l'envers, ok? C'est, l'explication, c'est l'inverse. Chez Adam, amevatel ta'anat modara, l'homme qui annule la déclaration de contestation, Mashmien nous fait entendre, nous veut nous dire, Shehadabaraze Shenarasakan, que la chose qui a été faite ici, enfin pas ici spécialement à Mayanot, mais que la chose qui a été faite dans ce cas, Naasahu Dafka, a été faite précisément, Mitor Nekudat Haani, du dedans, du point du Haani, Bimlo Heruto Apnimit, dans sa pleine liberté. Intérieur, profond. Oui, c'est très joli cet hébreu traduit, lui dit. Bon, alors vous avez compris donc ce qu'il y a dans le deuxième paragraphe. À Pourim, il se dévoile que l'acceptation de la Torah au Sinaï, bien que sous la contrainte, était en réalité autonome, libre. C'est clair? Vous avez bien compris l'idée? Bon. Veillons à Pourim, et le jour de Pourim, chez Anudaninoto, que nous définissons les Yom Bitul Amodara, à qui nous donnons le statut de jour de l'annulation de la contestation de Modara Rabba Loraita, Pirusho, son sens, ou chez Beyonze, que ce jour-là de Purim, Anumakirim, nous reconnaissons Bibhirut de façon claire, ou Bibhirut et distincte, qui Anarase Benishmar, que la formule de nous ferons et nous entendrons le Naase Benishmar du Sinaï, Shayahu, concerne les Etsemanekuda à l'essence du point intérieur chez Aviatenu Aratsmutit, de notre existence. Aratsmutit, il faudrait traduire ici essentielle et aussi indépendante. Aratsmautit, c'est moi qui ajoute la lettre de Aratsmautit. Venimsa, et il en résulte, des hakiblou de Purim, que ceux ils ont accepté de Purim, machrizu, proclame, qui ani ani hu, que c'est bien moi, haïch, cet homme, chez me etzem retsoni, que de l'essence même de ma volonté, Nishbarti, j'ai juré, Behar Sinai, Naase Venishma. Oui. Et d'une certaine manière, je vais essayer de un peu de comment dire de en, pas enrichir, compléter un peu cela de cette manière. C'est que accepter la fête de la Torah dans les circonstances de Shavuot, dans la révélation des valeurs, c'est une vertu. Mais là, à vivre selon la Torah le jour de Pourim, ça se dévoile qu'à Shavuot, c'était une vertu. Je ne sais pas si c'était assez clair. C'est-à-dire que accepter la pérennité d'Israël alors que l'histoire d'Israël a pris fin apparemment, c'est là dévoilé que dès le début, on avait accepté la pérennité d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Oui, vous avez compris? Non? Pas clair? C'est-à-dire, voilà, être juif dans le temps des Hébreux, bon, c'est être ce qu'on est. Mais être juif, alors que l'exil a commencé, c'est ça qui dévoile, ce qui dévoile que, même dans le temps des Hébreux où ça allait de soi, c'était une vertu. Vous avez compris? C'est bien clair. C'est ce que je dis, pardon, d'une autre manière, que Pourim dévoile l'éternité d'Israël. Alors que jusqu'à Pourim, on est dans l'histoire d'Israël. On est dedans. On est naïté, naître. Okay? On est dedans. Mais voilà que les Juifs sont des Hébreux mis dans des conditions anormales. Et dans des conditions anormales, ils restent Hébreux, alors c'est qu'ils sont vraiment Juifs. Vous voyez à peu près le problème. Okay. Par exemple, et je vais vous dire d'une autre manière, mais comprenez bien ce qu'il y a dedans. Un juif qui vit en Israël, même assimilé, eh bien, il est lui-même. Il est en Israël, à l'abri d'Israël. Okay. Mais un juif assimilé en dehors d'Israël se perd. Vous avez compris? Un juif israélien, même qui, pour des raisons X ou Y, n'est pas authentiquement un juif de la Torah, il est ce qu'il est, il est juif, il est protégé par. Okay? Tandis qu'un juif en dehors d'Israël qui s'assimilerait, eh bien il s'assimile, c'est-à-dire il se perd. Vous avez compris le problème? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire?
Je voulais dire que là on nous a parlé de Kippour comme une signe Kabbalah et de Pourim comme d'un petit mauvais bisou.
D'une Kabbalah aussi, oui.
Mais on a parlé de la Kabbalah de la Torah au Har Sinai.
Oui. Alors,
ça correspond pas à Kippour.
Okay. Parce que Kippour, c'est le jour de la Kabbalah de la Tshuva. Et ça veut dire qu'on revient à la Torah. Mais pas Shuva. Et d'ailleurs, vous remarquerez que. Top. Bon, ça suffit, parce que sinon, c'est une parenthèse. Ken.
Ce que je veux dire, c'est. Avec Kippour et Kippour Torah. On vous avait posé la question le Shabbat, je pense, quand on avait commencé ce texte. Je crois que vous avez dit que ce n'était pas tout à fait
fini. Je ne me rappelle pas. Et explique de façon plus précise parce que je me.
On avait justement parlé de.
Quelle question? Je ne comprends pas la question.
Ah, si, vraiment, il y a un parallèle entre Kippour et Kippour et dans cette vie, je pense.
Je ne comprends pas très bien ta question.
Je vais commencer par les Kayem, faire la mitzvah.
Ah, Naase et Nishma, Kimou et Kiblou.
C'est ça.
C'est très parallèle. Mais je pensais à tout à fait autre chose par rapport à notre sujet. Bien sûr que c'est parallèle. C'est-à-dire que, de la même manière que Naase et Nishma, c'est un ordre allogique, Kimou et Kiblou, c'est aussi un ordre allogique. Mais c'est le même ordre. C'est-à-dire, c'est le même rythme, si vous voulez. Okay? C'est-à-dire, le fait qu'il y ait Kimou avant Kiblou, ça prouve que ce Kiblou est vraiment est sérieux. Le fait que Narasé avant Nishmar, ça veut dire que ce Nishmar est vraiment sérieux. Est-ce que vous avez compris la question et la réponse? Ken? Je reviens un peu en arrière, parce que je ne sais pas si votre année, cette année j'ai expliqué cela. Narasé et Nishmar, c'est le problème qui est posé par cet ordre, c'est on fait d'abord, on écoute après. Ça ne tient pas debout. Comment je peux faire quelque chose que je n'ai pas écouté? Okay. En général, on cite cela, on cite le drash qu'il y a dans la Gemara. À ce propos, où la Gemara dit, que Israël au pied des Sinaï était comme des anges, et on cite un verset, c'est les anges qui le font avant de savoir ce qu'ils ont à faire. Alors que les hommes, c'est pas l'ordre qu'il faut. Il faut d'abord que j'écoute ce que j'ai à faire. De telle sorte de savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Est-ce que c'est clair? Et on cite souvent le drash et on oublie le pshat. Le pshat est tout à fait différent. Le pshat, c'est ce que nous avons déjà entendu narasser, nous allons le faire. Vénishma, et nous sommes prêts à écouter encore s'il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est le pshat. Vous suivez? Kol asher diber Hashem narasser. Tout ce que Dieu a déjà dit, nous allons le faire. Vénishmar, et nous sommes prêts à écouter la suite. Okay. Alors, ce pshat a été sorti par la Gemara, et qui dit, l'ordre, naase vénishmar, c'est un ordre angélique. Okay. Et alors, ça, c'est le mérite d'Israël que naase d'abord et nishmar ensuite. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu plus profondément. Vous avez bien compris cela, ne vous trompez pas. Okay. Et là, la Tosfot dans la Gemara nous dit... Et c'est ça que veut dire un verset du Cantique des Cantiques, qui dit ceci. Ketapuach be'aseh ha'yahar, ken dodi ben abanim. Comme la pomme